4. Ce ne sont pas des créatures vivantes sous ces masques, leur dit Roland. Les loups sont les serviteurs morts-vivants des vampires qui règnent à tonne foudre. Un murmure d'effroi accueillit ce petit boniment savamment préparé. Ce sont ce que mes amis Eddie, Susanna et Jake appellent des zombies. On ne peut pas les tuer avec un arc, un bât ou par balle, à moins de les frapper au cerveau ou en plein cœur. Roland se frappa le torse pour faire bonne mesure. Et bien sûr, au cours de leur rafle, ils viennent protégés par de lourdes armures sous leurs vêtements. Enchi cochait la tête. Plusieurs autres hommes et femmes plus âgés, des Falken qui se rappelaient bien la venue des loups, non pas une, mais deux fois, faisaient de même. « Ça explique beaucoup de choses, » dit-il. « Mais comment les frapper au cerveau est au-delà de nos capacités à cause des casques qu'ils portent sous leur capuche ?» dit Roland. « Mais nous avons vu de telles créatures à Ludd. C'est là qu'est leur faiblesse. » Il se frappa de nouveau la poitrine. Les morts vivants ne respirent pas, mais ils ont une sorte de branchie au-dessus du cœur. S'ils la recouvrent de leur armure, ils meurent. C'est là que nous les frapperons. Un bourdonnement de conversation à voix basse accueillit cette nouvelle. Et c'est alors que s'éveilla la voix du grand-père stridente et surexcitée.
« C'est presque, Lydi, parce que Molly Doolin l'a tipa flappé là avec splat et qu'il n'était pas mort et que pourtant cette clétus s'effondrait !»
La main de Susanna serra le bras d'Eddie assez fort pour qu'il sentît ses ongles courts lui rentrer dans la chair, mais quand il se tourna vers elle, il constata qu'elle souriait malgré elle. Il aperçut la même expression sur le visage de Jake. « T'as pas mal de gâches au moment crucial, vieux bonhomme, » pensa Eddie. « Désolé d'avoir douté de toi. Attends un peu qu'Andy et Ben Slightman passent la rivière pour aller rapporter ces joyeuses conneries en haut lieu. » Il avait demandé à Roland s'il, ce il sans visage, était incarné par celui qui se faisait appeler Finley Otego. « Croirait des inepties pareilles. Ils font des rafles de ce côté de la Wye depuis plus de 100 ans et n'ont jamais perdu qu'un seul guerrier, » avait répondu Roland. « Je pense qu'ils croiraient n'importe quoi. C'est leur condescendance, leur vrai point faible. »
« Amenez vos jumeaux ici à 7 heures du soir la veille des loups, » poursuivit Roland. « Il y aura ces dames, les sœurs d'Olitsa, vous a tweeté, avec des ardoises de liste. Elles cocheront les noms de toutes les paires à leur arrivée. J'espère trouver chaque nom barré avant 9 heures. « Vous ne tirez pas un trait sur les miens !»
cria une voix en colère à l'arrière de la foule. Celui qui avait ainsi crié écarta plusieurs personnes de son passage et alla se planter à côté de Jake. C'était un petit homme courteau qui avait une petite rizière plus loin, au sud. Roland parcourut les pièces en désordre de sa mémoire récente, en désordre certes, mais il ne jetait jamais rien, et finit par y trouver un nom, Neil Faraday. Un des rares à n'avoir pas été chez lui quand Roland et son cadet lui avaient rendu visite. Pas chez lui pour eux, en tout cas. Un gros travailleur, à en croire Tian. Et un plus gros buveur encore, à en croire les cernes violets sous ses yeux et l'entrelac de veines violacées sur chacune de ses joues. Et débraillé. Beaucoup, beaucoup. Pourtant, Telford et Took lui adressèrent un regard reconnaissant et surpris. « Un troisième homme saint d'esprit à l'asile, » disait ce regard. « Dieu merci !»«
Vont pas me baber quand même et brûler cette foutue ville !»
lança-t-il avec un accent qui rendait le sens de ses paroles quasiment incompréhensible.
« Vont pas d'un chaque paix, m'en laisser un troué, et je m'en fous si je vais le patrifette mon hogan, si lui !»
Faraday balaya l'assistance d'un regard sardonique et chargé de dédain.
Qui vous crome et soyez meuli, bande de cons!
Il se fondit de nouveau dans la foule, laissant derrière lui un grand nombre de gens visiblement secoués et pensifs. Il avait fait plus de dégâts sur le moral de la foule avec sa tirade méprisante et, pour Eddie au moins, incompréhensible, que Telford et Took réunis. Il est peut-être fauché comme les blés, mais quelque chose me dit qu'il n'aura aucun mal à obtenir crédit chez Took pendant au moins un an, pensa Eddie, si l'épicerie est toujours debout, bien évidemment.
Cy Faraday a le droit d'avoir son propre avis, mais j'espère qu'il en changera dans les quelques jours à venir, dit Roland. Et j'espère que vous autres, vous l'aiderez à en changer. Parce que, dans le cas contraire, ce ne sont probablement pas 3 enfants qui lui resteront, mais aucun.
Il éleva la voix et l'orienta vers Faraday qui lui jetait un regard noir.
Et alors il verra comment s'en sortir de ses labours, avec seulement 2 mules et 1 femme pour l'aider.
Telford s'avança jusque devant l'estrade, le visage écarlate de rage.
« Vous ne renoncez donc à rien pour gagner la dispute, espèce de ladre ? Vous ne reculez donc devant aucun mensonge ?»«
Je ne mens pas et je n'affirme rien avec certitude, » répondit Roland. Si j'ai donné à quiconque l'impression que je connaissais toutes les réponses, alors qu'il y a moins d'une saison, je ne soupçonnais même pas l'existence des loups. Alors j'implore votre pardon. Mais permettez que je vous raconte une histoire avant de vous souhaiter bonne nuit. Quand j'étais jeune à Gilead, avant la venue de l'homme bon et le grand incendie qui ravagea tout, il y avait une pépinière à l'est de la baronnie.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'élever des arbres ? Demanda quelqu'un d'un ton moqueur.
Roland sourit et acquiesça.
Peut-être pas des arbres ordinaires, ni même des arbres de fer, mais des florus, un bois extrêmement léger et pourtant très résistant. Le meilleur bois qu'on ait jamais vu pour les bateaux. Si on en coupe un morceau très fin, il flotte quasiment dans l'air. On les faisait pousser sur plus d'un millier d'acres. 10 000 arbres de florus, bien alignés, tous entretenus par le forestier de la baronnie. Et la règle, qui ne fut jamais transgressée, était la suivante. Prends-en 2, fais-en repousser 3.
Si fait, dit Eisenhart. C'est presque la même chose avec le bétail, et avec celui de bonne aloi, on recommande d'en garder 4 pour chaque tête qu'on vend ou qu'on abat. Peu de gens peuvent se le permettre.
Roland parcourut la foule du regard.
Durant l'été, l'année de mes 10 ans, un fléau s'est abattu sur la pépinière de Florus. Des araignées ont tissé leur toile blanche au sommet de certains arbres. Et cela pourrissait, de la cime jusqu'aux racines, ou finissait par tomber sous leur propre poids. Le forestier vit ce qui se passait et ordonna qu'on fît abattre immédiatement tous les arbres indemnes, pour sauver le bois tant qu'on pouvait l'utiliser, vous voyez? Il n'était plus question d'en prendre 2 et d'en replanter 3, parce que la règle en elle-même n'avait plus aucun sens. L'été suivant, les florus qui s'étendaient à l'est de Gilead avaient tous disparu.
Un silence total régnait parmi les Falcon. Le jour finissant s'était fondu en un crépuscule précoce. Les flambeaux sifflaient. Pas un œil ne quittait le visage du pistolero.
Ici, à la Cala, les loups cultivent des bébés. Et ils n'ont même pas besoin de les planter parce que, écoutez-moi, c'est comme ça que ça marche avec les hommes et les femmes. Même les enfants le savent. Papa fait le fada quand il plante le riz comme à la, maman sait quoi faire, voilà.
Murmure parmi les falcons.
Les loups prennent, puis attendent. Ils prennent, puis ils attendent.
Ça leur a réussi jusqu'ici parce que les hommes et les femmes replantent toujours de nouveaux bébés, peu importe ce qu'il advient. Mais voilà qu'arrive quelque chose de nouveau. Voilà qu'arrive le fléau.
Touk le prit de vitesse.
Si fait, vous dites vrai, c'est un fléau, vous et vous. Quelqu'un lui donna une claque sur la tête, faisant tomber son chapeau.
Ibn Touk fit volte-face, chercha le coupable, et se trouva face à 50 visages hostiles. Il ramassa son chapeau, le serra contre la poitrine et se tut.
S'ils voient que l'élevage de bébés est fini pour eux ici, reprit Roland, cette fois-ci, ils ne prendront pas que les jumeaux. Cette fois-ci, ils prendront tous les enfants sur lesquels ils pourront mettre la main tant qu'il est encore temps. Alors, amenez aussi les petits à 7 heures. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner.
Quel choix vous leur laissez ?
Demanda Telford, blême de peur et de rage.
Roland en avait vraiment assez de lui. Il lui répondit en criant et l'éclair soudain de ses yeux bleus en feu fit basculer Telford en arrière.
« Aucun que vous ayez à faire, sire, car vos enfants sont adultes, comme tout le monde en ville le sait !»« Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Pourquoi vous n'affermeriez pas, maintenant ?»
Un tonnerre d'applaudissements et un martèlement monstrueux de bottes répondirent à Roland. Telford supporta les railleries et les huées aussi longtemps qu'il put, la tête rentrée dans les épaules comme un taureau sur le point de charger. Puis il se retourna et se dégagea un passage jusqu'à la sortie, en bousculant tout le monde. Touk le suivit. Quelques instants plus tard, ils avaient disparu. Peu de temps après, le conseil prit fin. Il n'y eut pas de vote. Roland ne leur donna pas d'alternative. « Non, s'est dit de nouveau Eddie en poussant le fauteuil de Susanna vers les rafraîchissements. Vraiment, rien de causé là-dedans. » 5. Peu après, Roland accosta Ben Slightman. Le contremaître se tenait sous l'un des porte-flambeaux, tenant en équilibre entre ses mains une tasse de café et une assiette sur laquelle était posée une part de gâteau. Roland avait lui aussi du gâteau et du café. De l'autre côté de la pelouse, la tente des enfants était encore pour l'instant la tente des rafraîchissements. Une longue file d'attente serpentait à l'intérieur. On parlait bas et on riait peu. Plus près, Benny et Jake se lançaient une balle, laissant parfois Otel l'attraper à son tour. Le bafouilleux aboyait joyeusement, mais les garçons paraissaient aussi sombres que ceux qui attendaient dans la file. « Vous avez bien parlé ce soir, » dit Slightman en cognant doucement sa tasse de café contre celle de Roland. « Vous le dites ?»«
Si fait. » »« Bien sûr, ils étaient prêts, comme vous le saviez, je n'en doute pas. Mais Faraday a dû vous prendre par surprise et... vous avez su déjouer ses intentions.
Je n'ai fait que dire la vérité, rectifia Roland. Si les loups perdent assez de leurs troupes, ils prendront ce qu'ils pourront et feront la part du feu. Les légendes ont la barbe qui pousse, et elle a bien le temps de pousser en 23 ans. Les falcons de la Cala supposent qu'il y a des milliers de loups là-bas, à Tonne Foudre, peut-être même 10 millions, mais je ne crois pas que ça soit le cas.
Slightman le regardait avec une authentique fascination.
Et pourquoi ?
Parce que les choses se dégradent, dit simplement Roland.
Je veux que vous me promettiez quelque chose.
Slightman le considéra d'un air méfiant. Les verres de ses lunettes miroitaient à la lueur des flambeaux.
« Si je le peux, Roland. »
« Veillez bien à ce que votre garçon soit là à temps, dans 4 jours. Sa sœur est morte, mais je doute que cela cesse de faire de lui un jumeau aux yeux des loups. Il a très vraisemblablement ce qu'ils viennent chercher.
Slightman ne fit aucun effort pour dissimuler son soulagement.
« Si fait, il sera là. Je n'ai jamais eu d'autre intention. »«
Bien. Et j'ai aussi un travail pour vous, si vous êtes prêt à le faire. » Le regard méfiant était de retour.
« Quel genre de travail ?»«
J'ai commencé par penser que 6 personnes suffiraient pour s'occuper des enfants pendant que nous combattrons les loups.
Et alors, Rosalita m'a demandé ce qu'il ferait si les enfants prenaient peur et se mettaient à paniquer.
« Si fait, mais vous les aurez mis dans une grotte. »«
Pas vrai ?»
demanda Slightman en baissant la voix. « Les gosses ne peuvent pas courir bien loin dans une grotte. » Même s'il panique. Assez loin pour se cogner à un mur et s'ouvrir le crâne, ou pour tomber dans un trou dans le noir. Si l'un d'eux pique une crise à cause des cris, de la fumée et du feu, ils pourraient bien tous tomber dans un trou dans le noir. J'ai décidé de prendre 10 personnes pour surveiller les gosses. Je voudrais que vous soyez l'une d'entre elles.
« Roland, je suis flatté. »«
C'est un oui ?» Slightman acquiesça. Roland l'observa.
« Vous savez que si on perd, ceux qui gardent les enfants sont susceptibles de se faire tuer. »« Si je pensais que vous alliez perdre, je ne serais jamais d'accord pour aller là-bas avec les enfants. »
Il marqua une pause.
« Ou pour vous envoyer le mien. » Merci, Ben. Tu es un homme bon.
Slightman baissa encore la voix.
Dans quelle mine allez-vous les mettre? La Gloria ou la Plume Rouge?
Et comme Roland ne répondait pas immédiatement,
bien sûr, je comprendrai si vous préférez ne pas. C'est pas ça, répondit Roland. C'est que nous n'avons pas encore décidé. « Mais ce sera l'une ou l'autre. »«
Oh, si fait. »« Ou sinon ?» fit Roland d'un air distrait, tout en se roulant une cigarette.
« Et vous essaierez de les surprendre par au-dessus ?»«
Ça ne marcherait pas, l'angle n'est pas bon. » Il se tapota la poitrine, juste au-dessus du cœur.
Il faut les frapper ici, rappelez-vous. Ailleurs, ça ne vaut rien. Même une balle qui traverserait l'armure ne ferait pas grand mal à un zombie. C'est un vrai problème, n'est-ce pas? C'est plutôt une occasion.
Vous voyez cet éboulis qui s'étend en dessous de ces vieilles mines de grenat? Celui qui ressemble à un bavoir pour bébé.
Si fait. C'est là que nous nous cacherons, là-dessous. Et quand ils arriveront vers nous à cheval, nous nous lèverons, et Roland dressa le pouce et l'index devant le visage de Slightman et fit signe de presser la détente. Un sourire s'alluma sur le visage du contremaître.
« Roland, c'est génial !»«
Non, » le corrigea Roland. « C'est simple. » Voilà tout. Mais la simplicité est souvent ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'on les prendra par surprise. On les cernera et on les cueillera. Ça a déjà marché pour moi. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas encore une fois.
Allons. Je vois pas pourquoi.
Roland regarda autour de lui.
Mais il vaut mieux ne pas parler de tout ça ici. « Ben, je sais que vous êtes fiable, mais... » Ben s'empressa d'acquiescer. « N'en dites pas plus, Roland. Je comprends. »
La balle roula jusqu'au pied de Slightman. Son fils tendit les bras en souriant.
« Pas ! Lance-la ! »
Ce qu'il fit, et fort. La balle s'envola comme le plat de Molly dans le récit de grand-père. Benny sauta, l'attrapa d'une main et éclata de rire. Son père lui adressa un grand sourire chaleureux, puis posa le regard sur Roland.
« Ils font la paire tous les deux, pas vrai? Le vôtre et le mien ?»«
Si fait, » dit Roland en souriant presque.
« Quasiment des frères, c'est vrai ?»«
6. Le quatette reprit le chemin du presbytère, les chevaux avançant tous les quatre de front sous les regards de la ville entière. La mort à cheval.
T'es satisfait du déroulement de la soirée, Trésor ? Demanda Susanna à Roland.
Ça ira, admit-il en se mettant à rouler une cigarette.
Je voudrais essayer, dit soudain Jake.
Susanna lui adressa un regard à la fois choqué et amusé.
Tiens ta langue, mon chou.
T'as pas encore 13 ans.
« Mon père a commencé à 10 ans. »«
Il sera mort à 50, sans doute, » dit Susanna d'un air sévère.
« Ce sera pas une grosse perte, »
marmonna Jake, mais il laissa tomber le sujet.
« Et Mia ?»
demanda Roland, allumant une allumette du bout de son pouce. « Elle se tient tranquille ?»
Si vous ne me l'aviez pas juré, les garçons, je finirais par me demander si cette poulette a jamais existé.
Et ton ventre ? Tranquille, lui aussi ?
Oui.
Chacun avait ses propres règles concernant le mensonge. La sienne, c'était de faire court. Si elle avait un petit gars dans le ventre, une sorte de monstre, elle ne voulait pas les inquiéter avec ça avant une semaine. À compter de ce soir. S'ils étaient encore en mesure de s'inquiéter de quoi que ce soit, bien sûr, pour l'instant, personne n'avait besoin d'être tenu au courant de ces petites crampes d'estomac. « Ah, alors tout va bien, » dit le pistolero. Ils chevauchèrent en silence pendant un moment, puis il ajouta « J'espère que vous savez creuser, les garçons, parce qu'on va devoir creuser. »
« Des tombes ?»
demanda Eddie, sans être sûr de blaguer vraiment.
« Les tombes viendront plus tard. »
Roland leva les yeux vers le ciel, mais les nuages venus de l'ouest leur avaient dérobé les étoiles.
« Rappelez-vous, ce sont les vainqueurs qui creusent. »